Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Docteur Florent Ngamouna, bonjour.
Bonjour, bonjour Kachava, bonjour Radio Okapi.
L'élevage de bovins est une activité qui peut rapporter gros, d'après certains. Oui. Vous pouvez élever des vaches pour obtenir la viande ou bien pour extraire le lait. Cependant, oui, il est important de connaître les techniques d'élevage des bœufs pour espérer une bonne production. Et quelles sont ces techniques? Eh bien, notre invité va nous les dire tout à l'heure. La première question, quelle est la situation de l'élevage des bovins dans notre pays? Comment se présente la situation aujourd'hui?
Bon, jusque-là, c'était florissant avant qu'il y ait tous ces conflits armés à l'Est. Parce qu'en principe, c'est les trois quarts des bovins pour la République démocratique du Congo se trouvent à l'Est où il y a le peuple éleveur dans l'ensemble. Mais tous les conflits armés ont fait qu'il y a une diminution. On avait atteint 1 500 000 têtes avant ces conflits. Maintenant, officiellement, on est autour de 1 million. Donc, il y a eu régression. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la République démocratique du Congo peut contenir jusqu'à 40 millions de bovins. Voilà.
Ouais. Aujourd'hui, on est seulement à 1 million.
À 1 million, voilà.
Ouais. Et c'est dans quelle partie du pays où cet élevage est beaucoup plus pratiqué?
C'est surtout en Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ce sont vraiment des zones d'élevage. Et après, vous avez le Bas-Congo, le Bandundu. Et ensuite, le Katanga et aussi le Kasaï, surtout le Kasaï oriental.
Les Kasaï orientales. Alors, pour celui qui veut se lancer dans ces genres d'activités, oui, quels sont les préalables?
Oui, en fait, il faut d'abord savoir qu'il y a deux modes d'élevage. Il y a l'élevage intensif et l'élevage extensif. L'élevage intensif qui est surtout dans les pays tempérés, où on élève les animaux sur une petite surface. Souvent, c'est dans une maison, où on s'occupe de les engraisser pour en retirer du lait ou de la viande. Mais dans nos pays tropicaux où nous avons beaucoup de pâturage, nous pratiquons ce qu'on appelle l'élevage extensif. Alors, l'élevage extensif, c'est quoi? C'est que l'animal est nourri par la nature. C'est le pâturage qui nourrit l'animal. Et le complément, surtout minéral, vient au gré de l'homme. Mais dans l'élevage extensif, il y a deux types d'élevage. Il y a l'élevage de gardiennage, où l'animal est gardé dans un enclos, et c'est quelqu'un qui est derrière qui le mène paître, le bouvier. Le bouvier, le matin, amène ses vaches paître et les ramène le soir dans l'enclos qu'on appelle le kraal. Alors, il y a un autre mode type d'élevage extensif, c'est celui qui est pratiqué souvent par certaines sociétés, par exemple ex-Jivel, Sogenac actuellement. Les animaux sont dans un pâturage, ils sont dans la nature, c'est ce qu'on appelle le paddocking. Donc, ils sont dans la nature et le jour où on a besoin, on va les sortir là-bas pour les amener pour les dippages, pour certaines manipulations dans un dipping tank ou dans un couloir de soins.
C'est-à-dire, voilà, on les laisse
On les laisse à la nature, oui, ça c'est le système paddocking. Mais le système de gardiennage, le bouvier est derrière l'animal du matin au soir et le soir il le ramène dans son enclos qu'on appelle le kraal.
Alors, entre les deux systèmes, lequel est meilleur?
Bon, en fait, le meilleur, c'est le système de gardiennage, parce que là, l'animal et l'homme se communiquent et l'homme conduit l'animal vers les pâturages qui peuvent être nutritifs pour lui. Mais quand on a, par exemple, autour de 1000 bêtes ou 10 000 bêtes, pour les conduire, c'est difficile. C'est comme ça que le système paddocking est meilleur quand on a un grand nombre. Mais si on a un petit nombre, il vaut mieux pratiquer le gardiennage.
Oui, ok. Merci bien. Alors, nous poursuivons. Donc, il y a deux systèmes. Vous avez dit l'élevage des gardiennages, l'élevage en pâturage, paddocking. Oui. Donc, ce sont là les préalables donc, qu'il faut savoir.
Oui.
Il faut d'abord avoir soit un enclos,
oui,
soit un grand espace.
Donc, quand on veut faire les gardiennages, la première chose à faire, c'est de construire un kraal, c'est-à-dire un enclos où vous gardez vos bêtes. Et il faut savoir où les amener pour paître. Ce que nous appelons le pâturage. Alors, le pâturage doit être bien géré. Le pâturage est subdivisé en parcelles. Il y a une parcelle qu'on utilise pendant un temps. l'autre est en train est mis en jachère. Et quand on aura besoin de cette parcelle-là, on procède par les brûlis. On brûle pour qu'il y ait une jeune herbe, pour que prochainement on puisse amener les animaux paître dans l'autre parcelle. Donc le pâturage dans le système de gardiennage est subdivisé en plusieurs parcelles et on utilise une parcelle après l'autre.
Donc cela veut dire qu'il ne faut pas se lancer sans avoir d'abord au préalable à préparer, à avoir assez d'espace pour
pouvoir garder les bêtes. Oui, justement. Donc il faut savoir qu'il y a certaines normes dans les gardiennages. Donc vous ne pouvez pas mettre les bêtes n'importe comment. Nous avons 25 bêtes à l'hectare, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser pour le bétail. Et si vous n'arrivez pas à respecter ces normes-là, vous n'aurez pas assez de biomasse, assez d'herbe pour pouvoir nourrir vos bêtes. Donc tout cela est nécessaire.
Alors, donc 25 bêtes à l'hectare, mais on peut démarrer avec combien? Un mâle
et une femelle.
Femelle
généralement, les villageois, chez eux, ils ont un mâle et une femelle, ça va. Mais en principe, un mâle est pour 25 bêtes.
Voilà, un mâle pour 25 bêtes.
Oui.
Alors, comment entretenir? Alors, c'est prenons pour l'élevage en gardiennage. Comment faut-il entretenir cet espace au quotidien
pour... Ok, l'espace pour nourrir, c'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai dit, il y a une partie qui est réservée pour aller paître et il y a une partie qui est mise en jachère. Donc, vous devez arriver à donner de l'herbe tendre à votre bétail pendant une année. Donc, vous avez un espace, c'est à vous à penser comment vous pouvez subdiviser cet espace en plusieurs parcelles pour vous permettre de donner chaque fois de l'herbe assez tendre à votre bétail. Ça, c'est les 1. De 2, vous devez aussi respecter le nombre de crâles. Les crâles n'est pas conçu n'importe comment. Et pour éviter de blesser vos bêtes, pour éviter d'énerver vos bêtes, il y a aussi la manipulation des animaux. Il faut pas qu'ils soient sauvages. C'est comme ça que nous construisons souvent un couloir de contention pour pouvoir contenir l'animal quand nous voulons le manipuler pour les soins, pour administrer les médicaments, pour les déparasiter. Et tout cela, il faut certaines conditions. Il faut éviter que les animaux soient manipulés d'une façon sauvage. Je crois, à l'époque, j'avais dit ici, actuellement, il y a un mouvement qui veut que ce qu'on appelle le bien-être animal. On ne manipule plus les animaux comme dans les temps n'importe comment. Il faut que les animaux souffrent le moins possible quand vous les manipulez. Alors, en ce qui concerne l'élevage bovin, on conseille qu'il y ait un couloir de soins. Il ne faut plus attraper les animaux au lasso, les coucher par terre de façon brutale. Il faut construire un couloir de contention pour pouvoir contenir votre animal pour pouvoir le manipuler plus
alors,
facilement.
Alors, si par exemple on construit le crâne, l'enclos dont
oui,
vous parlez.
Oui.
Alors, il faut réserver quel espace pour chaque animal?
En principe, pour l'enclos, disons que pour une bête, si vous réservez pour l'enclos, 1 mètre carré, ça va déjà.
1 mètre carré?
Oui. Pour l'enclos, pour le crâne.
Mmh.
Oui.
Mais généralement, ici, dans notre pays, est-ce que les gens utilisent ces systèmes ou bien les bêtes sont élevées en pâturage?
Non, pour les sociétés d'élevage telles que les grandes sociétés, Katongola dans le Katanga par exemple, j'ai cité Sogenac, Jivel, il y avait Grelka aussi et tout ça, c'est le système des paddocking. Parce qu'on a un plus grand nombre d'animaux, on ne sait pas avoir autant de bouviers pour pouvoir garder ces animaux, une charge.
Mmh.
Donc on les laisse dans la nature, on les rassemble le jour où on en a besoin au couloir des soins pour les manipuler. Mais généralement dans nos villages, les paysans ou dans les élevages qu'on trouve en plus petit nombre, on pratique le système de gardiennage. Il y a un bouvier qui est derrière les bêtes et souvent le bouvier donne des noms à ces animaux-là, il est plus habitué à chaque bête. Et d'ailleurs, dans les systèmes de gardiennage, c'est plus facile pour le vétérinaire parce que dès que l'animal est malade, le bouvier sait le remarquer et lui donner certains signes précurseurs qui peuvent l'aider à pouvoir poser certains diagnostics.
Mmh. Raphaël Atumunga nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute. Hein.
Oui, je voulais demander à notre invité quels sont les aliments de base des bovins et aussi. Est-ce qu'il ne demande pas un certain culement? Il ne demande pas un culement pour qu'il soit habitué.
Ok, merci pour la question. Aliment de base, le bovin, c'est un herbivore, donc il mange l'herbe. Alors, l'herbe que vous pouvez lui donner, c'est l'herbe qui est dans les pâturages. Généralement, pour les vétérinaires, les zootechniciens, quand il y a une brousse où il y a beaucoup d'hyparénia, c'est très indiqué pour pouvoir faire paître vos bêtes. Mais on peut aussi améliorer les pâturages. Par exemple, il y a les Stylosanthes gracilis qui est très appété. On peut aussi ajouter les Panicum. Hein, dans votre pâturage, vous les plantez pour pouvoir enrichir votre pâturage. Mais dans l'ensemble, il faut retenir que l'aliment de base de votre bétail, du bovin, c'est l'herbe.
Et maintenant,
donner.
Le climat, il veut savoir...
Bon, par rapport au climat, justement, il y a des espèces qu'on appelle espèces qui évoluent en pays tempéré et d'autres pas. Ici, par exemple, dans notre pays, il y a eu un moment où, en Célé, on avait produit, on avait élevé du bétail importé pour le lait. On produisait du lait en scellé. Mais c'était dans des conditions où l'animal était placé comme dans un pays tempéré. On a dû mettre des climatiseurs pour pouvoir refroidir un peu pour que les animaux se sentent à l'aise par rapport à leur pays d'origine. Alors, il faut savoir ceci, que les races sont adaptées selon les climats. Par exemple, ici chez nous, nous trouvons plus ce qu'on appelle le taurin, n'est-ce pas, le ndama, par exemple, à l'ouest ici. Mais quand vous allez à l'est maintenant, il y a plus importation du bétail de pays tempérés. Vous allez trouver des brunes suisses, vous allez trouver les charolais, etc. Ce sont des races qui sont élevées
qui n'évoluent que dans
les pays tempérés, où il fait un peu plus frais. Et vous savez, dans les climats de Kivu là-bas, c'est un peu plus frais, donc ces animaux évoluent très très bien. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de lait de ce côté-là.
Le Maziwa.
Le Maziwa, voilà. Ouais. Le Maziwa frais.
Et Christian Gabou nous appelle de Pandroma. Bonjour.
Bonjour, je dis Kachaman. Bonjour, l'invité.
On vous écoute, Christian.
Je dis une question à l'invité. L'invité, est-ce que la rosée, par exemple le menthe, parle du fait que quand vous amenez, par exemple, les chèvres dans la brousse, il faut que la rosée se termine d'abord. Alors que nous sommes, je vais à l'école, le temps passe, j'amène les chèvres plus tard, vers 13 heures dans la brousse. Et ils broutent les herbes, et ils ne sont pas rassasiés, ils ne sont pas en bonne santé. Mais la rosée, est-ce que ça peut faire du mal? Comme ça, je commence à ramener les chèvres très tôt le matin dans la brousse.
Bon. Allez-y.
Oui, on évite la rosée surtout pour les plus jeunes parce que c'est une cause de diarrhée. Et quand la diarrhée s'installe, parfois il est difficile d'arrêter. Donc, trop tôt matin, c'est mauvais. Très tard aussi dans la matinée, c'est mauvais. Donc, il faut que l'herbe soit assez, pas très humide, pas aussi trop sèche pour pouvoir donner à l'animal.
À quel moment alors faut-il
généralement faire... dans les élevages bien indiqués, autour de 7 heures, on peut amener les animaux sur pâturage.
Ouais, c'est le cas aussi pour les vaches.
C'est pour les vaches, non. Il a parlé des chèvres.
Lui, il a parlé des chèvres.
Des vaches. Ah, des vaches, oui. Les vaches, c'est autour de 7 heures. Hein.
7 heures.
6h30, 7 heures sont dans les pâturages, c'est une bonne chose. Mais pour les chèvres, généralement, ça dépend aussi de la race. Hein. Je sais que là où il est, ce sont les races sahéliennes là qui sont un peu plus susceptibles. Mais quand vous prenez la chèvre naine de l'ouest ici, la chèvre guinéenne, elle est moins exigeante et assez rustique. Mmh. Elle s'adapte un peu mieux par rapport aux autres races plus lourdes.
Par exemple, par rapport au bovin, quelle est la meilleure race?
Bon, là, justement, il y a un problème.
Oui.
Le problème, c'est quoi? L'élevage en Afrique a une contrainte majeure, c'est la maladie. Alors, par rapport à la maladie, il y a d'abord la trypanosomiase, la maladie qui est transmise par le mouche tsetse. Dans nos pays ici, il y a un grand problème de mouche tsetse. Alors, par rapport aux races qu'on élève, beaucoup de races ne supportent pas les piqûres de mouche tsetse et demandent pour cela une grande chimioprophylaxie, c'est-à-dire que vous êtes obligé de lutter contre l'installation de la trypanosomiase.
Oui.
Mais il y a ce qu'on a conseillé, les scientifiques ont conseillé d'élever dans les milieux où il y a les mouches tsetse certaines races qui se reproduisent un peu mieux que les autres et qu'on appelle les races trypanotolérantes. Par exemple, l'andama que nous retrouvons ici à l'ouest, c'est vraiment une bête trypanotolérante. C'est comme ça que vous voyez que ici à l'ouest, par rapport à la maladie de la trypanosomiase, on a conseillé de pouvoir évoluer avec la trypanosomiase. Je vous donne l'exemple de la JVL, à l'époque, qui est maintenant Sogenac. La JVL, par rapport aux autres sociétés qui avaient besoin de bêtes plus lourdes, etc., parce que l'endama, une vache, c'est autour de 250 kilos, le mâle atteint autour de 400 kilos, parfois 500 rarement, mais il y a, par contre, si vous élevez des zébus, vous pouvez arriver jusqu'à 800 kilos, etc. Alors, ceux qui ont préféré des races lourdes n'ont pas fait long feu. Pourquoi? Parce que il y a eu cette contrainte maladie, surtout la trypanosomiase. En dehors de ça, les maladies attiques. Donc, par rapport à l'endroit où on se trouve, il y a certaines races qui sont adaptées, surtout par rapport à certaines pathologies, certaines maladies.
Mais pour ceux qui sont en Ituri,
en Ituri, généralement, ils n'ont pas un grand problème de trypanosomiase, des mouches tétées là-bas. Ils ont des races traditionnelles qui sont là-bas, les Louguarais, etc., qui sont bien adaptées, qui sont aussi des petites races. Bon, il y a le bétail couri avec des longues cornes, etc., qui sont bien adaptées. Généralement, en Ituri, ils n'ont pas un grand problème des races. Ils ont déjà des races traditionnelles et ils sont habitués avec ces races-là. Mais par contre, quand vous venez au niveau du Nord Kivu, parce que surtout à Lubero, là, où j'ai fait un déplacement, vous allez retrouver beaucoup de races exotiques. Alors, pourquoi des races exotiques? Parce qu'ils ont besoin de produire beaucoup de lait. Alors, en ce moment-là, quand vous importez des vaches comme ça, il faut être sûr que vous pouvez maîtriser certaines pathologies. Heureusement que là-bas, il n'y a pas la mouche tétée, mais il y a un grand problème. En Ituri et dans le Nord Kivu et Sud Kivu, il y a le problème de la péripneumonie contagieuse bovine, il y a le problème de la fièvre asteuse, qui sont des maladies très dévastatrices et qui sont difficiles à pouvoir éradiquer.
Bien, bienvenue Kabamba, vous êtes à Lumbashi, Augustin Kasuma Kananga. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix. Vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment réussir l'élevage des bovins? Bienvenue Kabamba, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, je voulais un peu poser la question à notre spécialiste. Oui, est-ce qu'ici chez nous à Lumbashi, nous avons un bon endroit pour élever ce genre d'animaux?
Oui, si
c'était ça ma préoccupation.
Oui, vous voulez savoir si à Lumbashi vous avez...
La race que j'ai citée, l'Andama.
Un bon endroit.
Oui,
l'Andama. Le bétail Ndama.
Non,
il
Oui. Disons que le bétail Ndama peut être élevé partout en République démocratique du Congo. Et justement, quand vous allez un peu plus vers Kamina, vous allez retrouver des grands ranchs où vous avez le bétail Ndama qui est un peu plus petit par rapport aux autres animaux. Par exemple, l'Africander, la race Africander qui est une race lourde jusqu'à 800 kilos. Parfois même des taureaux peuvent atteindre 1000 kilos. Mais l'Ndama qui est un peu moins lourde est élevé aussi à ces endroits-là.
Augustin Kasuma de Kananga, bonjour.
Bonjour, Judine Kachama. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour. On vous écoute, Augustin.
Ah oui, j'aimerais poser à l'invité ces trois questions ici. La première, quelles sont les maladies appropriées pour les bovins qui sont élevés dans les deux systèmes d'élevage? Et la deuxième, je suis un éleveur de chèvres, mais lors de la mise bas, j'ai constaté que la chèvre ne coulait pas le lait pour les petits-enfants. Alors, est-ce que c'est une maladie? Laquelle? Et quels sont les médicaments de prévention?
Bon, merci. C'est bien sûr, on va parler de la chèvre prochainement. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du bovin.
Mais on peut lui répondre quand même. Rapport à la galaxie, là, donc le lait qui ne sort pas, il y a certains problèmes hormonaux. C'est question d'avoir l'ocytocine. Appelez un vétérinaire, il pourra vous résoudre ça facilement. Généralement, nous décantons ces situations par des injections d'ocytocine à certaines doses. Bon, par rapport aux maladies, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a une maladie très grave qu'on appelle la peste bovine. Heureusement, j'ai parlé tout à l'heure de Lubero. J'avais fait, à l'époque, j'ai travaillé dans un projet où on recherchait les traces du virus de la peste bovine. Je peux vous déclarer que
la Lubero. Réplique, c'était à Lubero.
On a fait dans tous les pays. J'ai dit tout à l'heure que je suis passé vers le Nord Kivu et tout ça. Okay. C'était dans une enquête pour pouvoir détecter la présence du virus de la peste bovine parce que c'est une maladie très grave. Très, très grave. Heureusement, la République démocratique du Congo est, depuis 2006, proclamée pays indemne de la peste bovine. Donc, cette maladie ne nous concerne pas. Après, vous avez le problème de la fièvre aphteuse qui attaque notre bétail. Vous avez la péripneumonie contagieuse bovine, qui est une maladie très grave aussi pour les bovins. Il y a la dermatose nodulaire, qui est aussi une maladie assez grave, et la dermatophilose qui est une maladie qui a été découverte pour la première fois en République démocratique du Congo, et d'ailleurs le microbe s'appelle Dermatophilus congolensis. Donc vous avez encore surtout le problème à ce niveau-là, c'est surtout ces maladies-là. Il y a la tuberculose, qui est une maladie aussi assez grave, surtout par rapport à l'homme. Et vous avez la fièvre de la vallée des rifts, surtout à l'est du pays. Les grands problèmes se posent surtout à l'est du pays, des maladies du bétail, par rapport à l'ouest. À l'ouest, par exemple, nous n'avons pas des cas de fièvre aphteuse, nous n'avons pas des cas de péripneumonie contagieuse bovine. On avait des cas de charbon symptomatique, mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, ces cas sont plutôt rares et presque inexistants. Mais par rapport à l'est du pays, vous avez des problèmes de charbon symptomatique. Vous avez aussi des problèmes de charbon bactéridien. Donc, ce sont les grandes maladies qui sont en vue. Mais n'oubliez pas que par rapport à ces maladies, il y a des maladies parasitaires telles que la trypanosomiase due aux piqûres de mouches tétées. Et il y a aussi les maladies à tiques, n'est-ce pas? Vous voyez, sur les animaux, souvent, on conseille que vous puissiez faire les bains des tiqueurs chaque fois. Peut-être une fois par semaine, deux fois, etc. C'est pour tuer les petites bestioles qui sont sur votre bétail. Mm-hmm. Ils transmettent certaines maladies, l'anaplasmose, etc. Et il y a certaines rickettsioses aussi qui sont transmises par les tiques.
Donc, et comment prévenir toutes ces maladies?
Il faut pour les maladies à tiques, il faut faire les bains des tiqueurs. C'est-à-dire qu'il y a certains produits qu'on asperge sur les animaux pour tuer ces tiques-là, de telle sorte que quand ils cherchent à piquer ces animaux qui sont déjà morts, ils ne peuvent pas transmettre la maladie. Okay. Alors, par rapport aux mouches tétées, à la trypanosomiase, il faut faire une chimioprophylaxie avec des médicaments qui sont mis au point, les samorins, etc. Mais ça coûte trop cher pour les éleveurs. C'est pour cela que dans les zones où il y a une pression de mouches tétées assez élevée, on conseille de pouvoir élever du bétail trypanotolérant. Et là, si vous avez votre vétérinaire, il peut vous indiquer, par exemple, l'andama. L'andama, où moi-même, j'ai participé aux recherches pour prouver que l'andama est trypanotolérante à travers l'Afrique. Nous avons fait ça avec le Centre international pour l'élevage en Afrique. Et en République démocratique du Congo, ça a été testé. Dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, l'andama est réputé trypanotolérante.
Oui, voilà. Donc, c'est une race
qui résiste un peu mieux par rapport aux mouches tétées.
Alors, à Israël Nzenzoulé, Moindo nous a écrit des Butembo. Est-il possible d'élever les bœufs ensemble avec d'autres bétails? Si oui, lesquels?
Si vous voulez élever le bœuf avec d'autres bétails, moi, je vous conseillerais peut-être les chèvres. Les chèvres, comment? C'est-à-dire que par rapport à la vache, la chèvre broute même de l'herbe un peu plus vieille. Alors, en ce moment, il y a certains ranchs où on conseille de faire passer, au lieu de brûler, on fait passer les chèvres qui broutent et le repousse, on fait maintenant, on peut faire passer les bovins. Donc, à la rigueur, on peut accepter que le bovin soit élevé pas tout à fait ensemble, mais sur le pâturage, on peut faire passer d'abord les chèvres et puis les bovins après. Mais il faut retenir ceci, que généralement, dans le principe vétérinaire, nous conseillons de ne pas élever plusieurs espèces dans un même endroit. Oui. Il faut les séparer.
Il faut les séparer. Oui. Et comment se présente le calendrier prophylactique?
Bon, par rapport au calendrier, bon, par exemple, pour la trypanosomiase, généralement, il est conseillé de donner les samorins une fois par mois.
C'est un vaccin, hein?
Non, c'est un produit qui prévient la trypanosomiase. Donc, okay. Quand il y a le samorin qui est dans le corps, l'animal est un peu protégé par rapport à la piqûre, la mouche, etc. Il ne sait pas faire la maladie. Mais vous voyez que ça coûte cher. Chaque mois, l'éleveur doit débourser pour acheter les samorins, etc. et les autres. Alors, par rapport à, aux maladies à tiques, il est conseillé de faire les bains des tiqueurs. C'est-à-dire que vous devez acheter des produits capable de pouvoir être aspergé sur le corps de l'animal pour éviter que l'animal puisse avoir des tiques et se faire piquer et avoir la transmission de ces maladies. C'est pour ça qu'on construit.
Mais dans... vous avez déjà remarqué qu'il y a, il y a certains oiseaux qui aiment bien se poser sur les bœufs.
Les piques-bœufs.
Les piques-bœufs.
Oui. Et justement, ils viennent manger.
Ces tiques-là.
Oui. Donc, ça serait aussi un moyen pour les détiquages. Mais on ne sait pas.
On ne sait pas,
parce que ce ne sont pas les mêmes espèces. Mmh. Ces oiseaux sont souvent des oiseaux migrateurs. Mmh. On ne sait pas, ils viennent d'où et qu'est-ce qu'ils ont amené comme microbes dans leur corps. Parce qu'en fait, les maladies sont tributaires des espèces. Il y a ce qu'on appelle la barrière des espèces. Il y a des maladies qui se développent mieux dans une espèce par rapport à l'autre. Mais il arrive parfois que dans certaines conditions, la barrière des espèces soit brisée. En ce moment-là, l'oiseau tel qu'il est là, s'il a amené un virus qui est capable de pouvoir contaminer votre vache, il va le faire. Ça, c'est ça le problème.
Joseph Ngoy, on va terminer avec la question de Joseph Ngoy qui nous a écrit de Kinshasa. Quel est le cycle de reproduction de bovins et combien en une portée? Sur quelle superficie faire l'élevage d'un couple de bovins?
Par rapport au cycle, en principe, la vache a un petit par an. Et elle a une grossesse de 9 mois, comme l'homme. Donc, 9 mois après, vous avez votre veau. Par rapport au nombre de petits, les grossesses gemellaires sont rares chez la vache. Donc, donner deux petits à la fois, c'est très rare. Ça arrive très, très rarement. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les élevages bovins. Je n'ai jamais vécu ce cas-là. Mais il arrive. Généralement, la vache donne un seul petit. Et par rapport à l'élevage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème d'appréciation de l'espace, quoi. Si vous avez un couple, je ne sais pas, vous l'avez au village ou vous l'avez où, vous avez une grande brousse, vous pouvez l'exploiter comme vous voulez, c'est pas pour un couple qu'on va déterminer l'espace là.
Alors pour obtenir une bonne viande ou un lait de qualité, il faut, tout dépend de l'alimentation.
Ça dépend de l'alimentation et il y a une chose que je n'ai pas dite, il y a le problème des compléments minéraux. Généralement, la vache exige dans son alimentation un complément minéraux. C'est comme ça qu'on donne la pierre à lécher. Parce que dans l'herbe qu'elle broute là, il n'y a pas assez de minéraux pour elle. Voilà.
Bien, merci beaucoup docteur Florent Gamouna. Je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire et épidémiologiste. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci.